une intention de prière. J'ai reçu ce matin, c'est notre cher Christian Trottmann qui me dit: j'ai la joie de vous annoncer que je suis admissible à l'agrégation. Je passe les oraux. Il dit: le 16 juin de 10h45 de 10h à 17h. Le 18 juin, de 11h à 15h. Le 20 juin, de 8h30 à 11h. Le 21 juin, de 11h à 17h. Le 21... Je dis ça pour que votre cœur soit l'unisson, quoi. C'est vraiment le vide. Le 24 juin, le 27. Alors, merci de le transmettre à la communauté, en particulier aux sœurs. Confiant en votre prière, bien à vous, par Marie. Alors, priez pour lui. Ce serait bien qu'il passe son agrégation. Puisque nous avons fêté jeudi, Dieu, et que dimanche, partout, on fêtera le mystère du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. Cette année-ci, à cause de l'année mariale, nous devons demander à la Vierge Marie apprendre auprès d'elle à revivre tous ces mystères et les revivre en profondeur comme elle les a vécus. Le rôle d'une mère, c'est d'éduquer, et par l'éducation la plus fondamentale qui soit, la nourriture. Faut jamais l'oublier. La Sainte Vierge nous éduque spécialement par les trois nourritures. Je crois que c'est cela qui peut être le plus agréable à Marie. Pour nous. Parce que c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Qu'est-ce qui peut lui être agréable durant cette année, pour cette année mariale? C'est de nous mettre de manière très particulière sous sa dépendance de mère, lui demander qu'elle nous éduque, et qu'elle nous éduque de la manière la plus profonde, qu'elle puisse réaliser en nous. On a beaucoup de peine d'être éduqué, parce que c'est jamais très drôle. On a tous une petite formation humaine, petite formation spirituelle et chrétienne, et on croit que c'est suffisant parce que on peut marcher tout seul. Et l'éducation, alors c'est ça, on peut marcher tout seul. Alors qu'il faut comprendre, il faut arriver à redécouvrir cette formation, cette éducation fondamentale de Marie. Le Père de haut, dans une petite plaquette, dit: Dieu est comme une mère. Et il montre qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de la manière dont Dieu nous éduque. Il fait la comparaison entre les liens entre un fils et sa mère. Il montre comment un fils, au point de départ, est très dépendant de sa mère, et puis progressivement il prend son autonomie. Et quand il a acquis une autonomie parfaite, il vient rendre des visites à sa mère par reconnaissance. Et quand il est très pris, ceux qui se confessent une fois par an, c'était classique avant déjà. Et ceux qui pratiquaient, ils se confessaient une fois par an. Ceux qui se confessaient quatre fois par an. Aux grandes fêtes. Il y avait Noël, Pâques, la Vierge Marie. C'était les quatre grandes fêtes. Mais là, il y a ceux qui se confessent tous les mois, ceux qui se confessent tous les 15 jours, ceux qui se confessent tous les 8 jours. Comme ça, les chrétiens étaient. Il y avait l'échelle. Vous pouvez juger comme ça. Ça ne signifie pas grand chose, mais c'est une manière de compter, hein. Faire des statistiques. Et Marie, elle est l'éducatrice par excellence. Mais il faut lui demander. Hein. Si on lui demande pas, Marie nous éduque pas. Mais si on fait le grand, celui qui croit qu'il sait. Si on ne demande pas à Marie nous éduquer, Marie nous laisse. Si on lui demande de nous éduquer, alors Marie intervient. Et elle intervient beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce qu'elle intervient constamment, sans qu'on s'en aperçoive. Son action est une action qui est très souterraine, comme celle de l'Esprit-Saint. Parce que je crois que ce qui est dit de l'Esprit-Saint est vrai de la très sainte Vierge. Elle n'est pas incarnation de l'Esprit-Saint. Elle est l'instrument par excellence de l'Esprit-Saint. Elle est celle dont l'Esprit-Saint se sert pour agir sur nous. Et il se sert d'elle pour agir sur nous, pour agir avec plus de profondeur, agir avec plus de lucidité profonde. Il faut demander à la Vierge Marie de nous éduquer à cette vie divine. Et voyez bien que l'éducation la plus radicale, c'est bien Marie qui nous éduque à l'égard de l'Eucharistie. C'est là où il y a, j'allais dire, un rôle maternel très unique. Normalement, pour des bons chrétiens qui sont élevés dans un climat de famille chrétienne, normalement, dans notre vie chrétienne, l'Eucharistie a joué un rôle plus fondamental que la parole de Dieu. On a d'abord vécu l'Eucharistie quand on a fait sa première communion, tout jeune. On ne lisait pas beaucoup l'écriture à ce moment-là. On ne se promenait pas avec la Bible. Notre première communion, si on l'a faite très jeune, la parole de Dieu était assez loin. Oui, et ça caractérise l'éducation catholique. Quand, à Fribourg, ça m'arrivait de préparer à la première communion des enfants de mariage mixte, connaissant l'un ou l'autre, et comme c'était assez délicat, vous comprenez, d'envoyer des gosses catholiques, mais de mariage mixte au catéchisme, parce qu'on ne savait jamais ce que le curé pouvait dire par rapport aux protestants. Après, le gosse serait rentré à la maison en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire quand monsieur le curé dit que les protestants sont en dehors de l'église. Alors il aurait regardé son père en disant, alors tu es en dehors de l'église. Et c'est ce qui faisait que la plupart du temps, quand il s'agissait de ces enfants de mariage mixte, on aimait bien les convier à une petite catéchèse spéciale. De ce temps-là, on pouvait le faire facilement, sans permission. On avait une liberté extraordinaire. Et moi, ça m'intéressait toujours beaucoup. Alors, je l'ai noté très profondément, ça, quand ces enfants avaient surtout une mère ou une grand-mère. La grand-mère jouait un rôle très important, protestante, et foncièrement protestante, calviniste. Ces enfants était beaucoup plus tourné vers l'Écriture. Il connaissait beaucoup mieux l'Écriture, l'Ancien Testament, que les enfants catholiques. Les enfants catholiques, quand on parlait d'Eucharistie, il y avait tout de suite quelque chose. La première communion, Jésus qui se donne sous cette forme du pain. Tandis que les enfants mixte, ça leur disait beaucoup moins. Et c'est curieux, c'est là on voit au point de départ ce qu'est l'éducation catholique. Il y a quelque chose de propre, c'est l'Eucharistie. c'est l'Eucharistie. Et c'est Marie qui nous éduque à l'Eucharistie. C'est vraiment là où on doit tout le temps revenir. Oui, même si on n'a pas reçu cette première éducation catholique, ça reste toujours ce qu'il y a de premier. Premier dans l'ordre génétique et premier dans l'ordre de nature. C'est le premier. Notre éducation chrétienne, notre éducation catholique se fait autour de l'Eucharistie et auprès de l'Eucharistie. Et si on n'a pas encore découvert ça, il faut le découvrir. Parce que ça, c'est très important. Se laisser éduquer par l'Eucharistie. Jésus se donne à nous comme pain pour nous éduquer. Pour nous éduquer par sa présence, pour nous éduquer en se donnant à nous. Et cette première éducation qui se fait par la nourriture, c'est l'éducation maternelle. Avant tout, le père intervient moins. C'est la mère qui apprend au gosse à manger. C'est la mère qui l'a appris en premier lieu à se nourrir. Marie aime de nous éduquer par rapport à l'Eucharistie. Parce que toutes les études qu'on peut faire au point de vue théologique, et la théologie de Saint-Thomas est particulièrement grande par rapport à l'Eucharistie, il suffit de regarder le commentaire de Saint-Thomas, chapitre 6, dans Saint-Jean. Le commentaire de Saint-Thomas au chapitre 13, les deux grands aspects du mystère de l'Eucharistie auxquels il faut tout en venir, en regardant dans l'Apocalypse les quelques lieux très importants où il nous est montré l'Eucharistie. Étudier en théologie, étudier dans la théologie le mystère de l'Eucharistie, c'est très bien, mais vous comprenez. C'est un mystère avant tout dans l'ordre de l'amour. Et donc, c'est vivre du mystère de l'Eucharistie qui est important. Et c'est ce que nous apprend Marie. Elle nous apprend à vivre du mystère de l'Eucharistie d'une manière très concrète. Elle nous éduque par là. Elle se sert du corps du Christ. Elle se sert, vous voyez bien, d'une manière très très divine, pour que nous puissions entrer dans cette éducation, dans ce contact particulier avec Jésus. Notre éducation chrétienne se fait autour de l'Eucharistie. Vous savez bien les remarques de Jean Vanier, les remarques du Père Thomas à propos des handicapés et le mystère de l'Eucharistie. C'est par le mystère de l'Eucharistie que ceux qui ne peuvent pas lire les Bibles. Et le mystère de l'Eucharistie joue encore un rôle direct pour eux. Le mystère de l'Eucharistie les éveille. Je crois qu'on pourrait dire que l'Eucharistie éveille le cœur, vous voyez. Parce que c'est justement un mystère de surabondance d'amour. C'est un mystère de silence. C'est pour ça qu'on en a tellement besoin. Alors, il faut que nous mentions à Marie, cette année-ci, qu'elle nous éduque à vivre du mystère de l'Eucharistie et à en vivre pleinement. C'est le testament officiel du Christ, puisqu'il y a deux testaments. Il y a le testament officiel. C'est le testament réalisé au milieu des 12. L'institution de l'Eucharistie. Et le testament familial, comme dit saint Ambroise et saint Augustin. Le testament familial. donne à nous. recevoir ce bain de vie. C'est Marie qui la maintient en nous. Et qui la maintient aujourd'hui. Disons pas, pour moi ça n'a pas existé. Ma première communion, je n'en souviens plus du tout, rien du tout. Mais Marie, je ne sais pas très bien, mais c'est aujourd'hui. C'est tous les jours, mais c'est encore aujourd'hui que doit se faire cette unité profonde entre notre cœur et le cœur du Christ. Marie, n'ayant d'autres désirs que la réalisation de cette unité. Oui, ça, c'est ce qu'il y a de si grand dans le mystère de Marie, c'est qu'elle ne s'occupe que de la finalité. Les moyens, elle sait très bien qu'il y a divers moyens. C'est secondaire. Ce qui l'importe, c'est que notre cœur soit transformé dans le cœur du Christ par le mystère de l'Eucharistie. Et je crois qu'on peut dire, n'est-ce pas, que le mystère de l'Eucharistie, dans la pensée du Christ, dans l'intention du Christ, est donnée en premier lieu à Marie. Ça n'exclut rien par rapport aux apôtres. Et je crois qu'après Marie, c'est Pierre. Parce que le lien entre Jésus et Pierre, c'est très très fort, ce lien de l'Eucharistie. Parce que c'est le lien de la hiérarchie, ça. La hiérarchie n'a de sens que par rapport à l'Eucharistie. Et avec Marie, auprès de Marie, c'est Jean. Jean est plus proche de Marie que de Pierre. Ça, je crois. Et par le fait même, son lien avec l'Eucharistie, c'est par l'intermédiaire de Marie. Même si à la scène, ça n'a pas été comme ça. Progressivement, à partir du moment où Marie a pris place dans sa vie, je crois qu'on peut dire que Jean reçoit en premier lieu cette éducation de Marie auprès de l'Eucharistie. C'est ça que Marie lui a fait comprendre. C'est du reste normal, c'est le testament, c'est la dernière volonté de Jésus. C'est l'ultime volonté de Jésus. Pour Jean, comme pour nous, mais pour Jean. Et c'est cela que Marie fait comprendre, que c'est l'ultime volonté du Christ. Et que ce mystère, pour nous, a une importance capitale. Puisque c'est le testament. Nous serons jugés sur le testament en premier lieu. Est-ce qu'on a été fidèles à ce testament ? Est-ce que ce testament a été vraiment gardé comme un testament d'amour ? Si c'est l'ultime volonté du Christ, c'est ce qu'il y a de plus vulnérable dans le Christ. Il se donne. Il se donne à travers l'Eucharistie. Il se donne comme pain. Donc il se donne jusqu'au bout, sans rien garder pour lui. Il se donne pour nous. Et il attend que nous soyons capables de le recevoir. Et la hâte de Marie, c'est justement de nous donner cette soif de ce sacrement pour qu'on puisse en vivre pleinement. Marie nous donne ce sens que l'Eucharistie doit être pour nous au cœur de notre vie. Ce qu'il y a de capital, parce que c'est Dieu. C'est le Père qui nous éduque en nous donnant cette nourriture qui est la chair de son Fils. ce sang. Qui est cet amour qui s'exprime de cette manière si absolue, ce sang répandu pour nous. L'Eucharistie doit être pour nous au cœur de toute notre vie. Voyez, je crois qu'on peut dire que l'Eucharistie fait ce lien entre la dévotion et la contemplation. C'est même très étonnant, cela. C'est une des points très délicats et très difficiles. Parce que où on est pris par la dévotion et il n'y a plus de contemplation. Où on aime tellement la contemplation qu'on ne regarde que la dévotion. Vous savez, Sainte Thérèse fait cette remarque de ne jamais quitter l'humanité sainte du Christ. C'est l'Eucharistie qui nous permet de ne jamais quitter l'humanité sainte du Christ. Parce qu'autrement, on risque d'en vivre d'une façon imaginative. Et en vivre d'une façon imaginative, ce n'est pas la contemplation. Et ce n'est pas la dévotion. La vraie dévotion qui relève du don de piété. La vraie dévotion n'est pas imaginative. Et elle est dans le mystère de l'Eucharistie. Parce que c'est le corps du Christ. C'est quelque chose de sensible qui nous est donné. C'est le corps du Christ. Et la dévotion, c'est justement ce lien sensible avec Dieu dont nous avons besoin. Nous devons dépasser, mais nous en avons besoin pour jamais supprimer la dévotion. Et la dévotion, c'est tout le temps auprès de l'Eucharistie, auprès du corps du Christ. Vous voyez, toute la dévotion de Marie à l'égard du corps de Jésus, du corps du tout petit enfant Jésus, à Bethléem. La dévotion de Marie à l'égard de Jésus qui grandit. C'est le corps du Christ qui montre cette croissance pour Marie. La dévotion de Marie auprès du corps du Christ crucifié, réduit à rien. Il faut souvent penser à cela. Marie, par l'Eucharistie, nous apprend ce lien sensible. Un lien sensible transformé par la grâce, transformé par la foi, et dans la foi, et dans la charité. Mais il y a quelque chose qui demeure. La vertu de religion demande de s'épanouir dans cette dévotion et la vertu de religion dans son exercice tout à fait divin grâce au don de piété permet cette expérience de la beauté du corps du Christ, de ce don du corps du Christ qui nous est donné pour que nous puissions épanouir en nous capacité sensible, sans nous y arrêter. L'évangile de ce matin, le dépassement du sensible, du visible pour l'invisible, oui. Et il faut ajouter, il y a un dépassement du visible vers l'invisible par l'Eucharistie, où le visible nous est donné. Pour que nous entrions tout de suite dans l'invisible. C'est ça qui est prodigieux dans le mystère de l'Eucharistie. Et pour Marie, le mystère de l'Eucharistie a été ce prodige de la pédagogie divine pour elle. Marie a été éduquée par l'Eucharistie. Semblerait qu'elle n'avait plus besoin. Parce que durant toute la vie temporelle du Christ, dans tout le pèlerinage du Christ, Marie a été éduquée par Jésus. Il fallait cette surabondance. Et là, Marie est toute proche de nous. C'est la même éducation que nous recevons. Et nous avons demandé à Marie de nous apprendre cette éducation de foi, d'espérance, de charité à travers le mystère de l'Eucharistie. Comprendre ce choix voulu par Dieu. s'y arrête pour qu'on les dépasse tout de suite et qu'on entre dans le mystère. Le mystère du don du corps du Christ. Marie nous apprend à comprendre que l'Eucharistie doit développer en nous cette dévotion profonde. C'est lui qu'on contemple. C'est le Verbe devenu chair. et de la solitude. C'est assez étonnant de voir ça. Mais tout se retourne autour de Christy. Et c'est là où Marie joue ce rôle de mère contemplative qui nous éduque d'une manière sage.
Silence doit mettre
au milieu de ces liens de charité fraternelle, un rappel impératif qu'on est seul en face de Jésus. Si on était plus seul en face de Jésus dans la prière liturgique, c'est-à-dire si on donnait davantage tout ce que nous sommes pour glorifier le Père, notre prière liturgique aurait bien plus d'élan, de force et de force conquête, parce qu'elle proviendrait directement de notre foi, notre espérance, notre amour, et l'Eucharistie serait au cœur de notre liturgie. Matériellement, elle est là. L'Eucharistie est là. Mais il faut que ça passe à travers notre cœur. Et que la lecture des psaumes se fasse à travers le mystère de l'Eucharistie. Et le caractère de notre liturgie doit être lié à cette exigence de pauvreté. Parce que c'est dans la pauvreté la plus grande que Jésus se donne dans l'Eucharistie. Pauvreté royale. Je crois qu'il n'y a qu'un roi qui est peut-être pauvre comme ça. Les autres sont pas, n'ont pas ce caractère magnanime de la pauvreté, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Et Jésus va jusqu'au bout dans la pauvreté, se donner sous les apparences du pain et du vin, dans le silence, lui qui est le Verbe. Et se donner dans ce plus grand silence pour nous. Il semble que c'est toujours... choses totalement différentes. C'est pour ça que dans certains cas, on comprend très bien comment la grande Sainte Thérèse, qui pouvait le faire, renvoie promener tout ce qu'il pourrait y avoir d'éléments artistiques pour qu'il n'y ait plus que l'espérance du pauvre, pour qu'il n'y ait plus que la paix. Dire quelque chose qui puisse aider. La liturgie, c'est pour le peuple chrétien. C'est pour le peuple chrétien. Vous comprenez bien que Dieu n'a pas besoin d'écouter le concert de nos voix. Non, c'est pas ça. C'est pour le peuple. Et ça te mal dit explicitement. C'est pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est nous. Hein. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre sensibilité a besoin de se calmer, de s'apaiser. Nos passions ont besoin de s'apaiser, d'être éduquées. C'est le lieu d'éducation politique. C'est-à-dire la communauté chrétienne. Où on est éduqué et on est constamment éduqué dans cette liturgie chrétienne, ayant au cœur le mystère de l'Eucharistie. Il faut que nous puissions vivre de cette présence silencieuse et de ce don total de nous-mêmes pour vivre de cette présence et de cette joie. Reconnaissant qu'il est présent pour nous et qu'il est à nous. Et c'est pour ça que on doit se donner dans la liturgie. On ne doit pas se contenter d'être passif. Parce que ce serait ni l'oraison ni la liturgie. On doit se donner. Alors on doit se donner, non pas d'une façon anarchique, d'une façon chaotique. On doit se donner et personne n'a le droit de dire non, moi je peux pas. C'est l'attitude du don. Le plus fort qui doit s'exprimer jusque dans notre corps, qui doit s'exprimer à travers notre voix, à travers notre chant. Il faudrait noter, voyez, ce qui caractérise la liturgie de la dernière semaine, dans la lumière de l'Eucharistie, dans la lumière du viatique, pour comprendre un peu ce que doit être cette liturgie, dans la lumière du mystère de l'Eucharistie. Alors là, on serait vrai. Et l'aspect artistique est en second lieu, tout à fait en second lieu. Il doit exister, dans la mesure du possible. Il doit exister. Mais s'il est second, c'est là toute la différence avec le théâtre et l'art chrétien. La liturgie ne doit pas être du théâtre. Quand elle commence à être du théâtre, on sent très bien que c'est pas ça du tout. Et on se lasse très vite. Tandis que quand elle nous entraîne à prier, que c'est le cri du peuple de Dieu, c'est notre cri, c'est notre misère que nous exposons à Jésus, alors à ce moment-là, c'est très grand. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous porte, et qui fait qu'on ne se lasse pas. Mais voyez comment la prière liturgique doit être dans le rayonnement même du mystère de l'Eucharistie. Je crois que là aussi, Marie doit nous éduquer beaucoup. Je crois qu'on ne demande pas assez à Marie de nous éduquer dans la prière liturgique, jusque dans le chant liturgique, jusque dans notre manière de vivre des psaumes. Il y a là un secret que Marie doit nous apprendre.